Le singe. Pour la sensibilité médiévale, le singe représente ce qu'il y a de plus vil, de plus repoussant, de plus diabolique. Isidore de Séville affirme que si une femme enceinte regarde un singe ou une image de singe, son enfant sera d'une laideur simiesque et ne pourra pas trouver sa place dans la société des hommes. À sa suite, bestiaires et encyclopédies font du singe le plus laid des êtres vivants. Son visage est grimaçant, son nez aplati, sa peau horriblement plissée, son aspect difforme. La vue de son derrière est insoutenable. Bref, c'est un être obscène et répugnant qu'il est impossible de rapprocher de l'espèce humaine. Malgré tous ses défauts, le singe peut s'apprivoiser. On utilise son instinct d'imitation pour lui apprendre à se donner en spectacle. Dès l'époque féodale, de nombreux jongleurs et batteleurs se déplacent de foire en foire et de village en village pour faire des tours et exhiber leurs singes, souvent une guenon. Dans les grandes villes, un emplacement spécifique leur est réservé, en général sur un pont comme à Paris et à Lyon. Cette nature qui pousse le singe à contrefaire l'homme est parfois la cause de sa captivité. Pour s'en emparer, nous disent les bestiaires, les chasseurs utilisent une ruse. Dans une clairière de la forêt, où les singes abondent, ils chaussent et déchaussent des souliers à plusieurs reprises. Puis ils s'en vont. Les singes s'approchent et, à leur tour, enfilent ses souliers. Mal leur en prend. Ce sont des souliers falsifiés, alourdis par d'épaisses semelles de plomb. Les singes restent prisonniers de leurs chaussures, ne peuvent plus courir et sont facilement capturés. Un autre moyen de s'emparer d'un singe tient à la mauvaise nature de la femelle. Celle-ci accouche en général de deux petits, qu'elle aime d'un amour inégal. Elle adore l'un, elle méprise l'autre. Quand on lui donne la chasse, elle s'enfuit en transportant son bien-aimé sur sa poitrine, entre ses bras, face à elle, tandis que l'autre, qu'elle n'aime pas, est accroché à son dos. Mais au cours de la poursuite, elle s'essouffle, écarte les bras pour mieux respirer, et, ce faisant, laisse tomber le fils qu'elle chérit et dont les chasseurs s'emparent. L'autre, bien cramponné dans son dos, est sain et sauf. Cette anecdote, racontée par tous les ouvrages de zoologie, a donné naissance à de nombreuses images et à plusieurs enseignements moraux et religieux. L'un est tout simple. De même que le Christ entoure les hommes d'un même amour, de même les parents doivent aimer pareillement chacun de leurs enfants. L'autre est plus complexe. De même que la guenon a deux fils, de même l'homme a deux enfants, l'âme et le corps. Mais il soigne bien plus son corps que son âme et préfère les biens de ce monde à ceux du ciel. Toutefois, quand vient le chasseur avec ses chiens, c'est-à-dire la mort avec les démons, l'homme, s'il ne veut pas finir en enfer, doit abandonner le fils qu'il aime, autrement dit son corps, et soigner celui qu'il avait délaissé, son âme.